Bonjour, bienvenue dans La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach professionnel et praticienne narrative. Je vous livre ici un mardi sur deux un conte qui m'a inspiré, quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4 de La vie est un conte. Aujourd'hui, je voulais commencer l'épisode en remerciant Claude pour le message qu'elle m'a laissé sur le mail de lavieestuncompte.com. Claude m'écrit: j'ai beaucoup aimé l'épisode 1 et j'attends avec impatience les suivants. Bravo à vous pour ce travail et cette façon originale de faire le lien entre les contes et les outils de coaching. Au plaisir de vous écouter de nouveau, Claude. Ce message m'a particulièrement touchée car ça a été le premier que j'ai reçu au moment du lancement du podcast. Aussi, je tenais à vous remercier, Claude, pour ce beau cadeau qui m'a mis en énergie. L'histoire que je souhaite vous raconter aujourd'hui est tirée du recueil « Laisse-moi te raconter les chemins de la vie » de Roré Boukaï et il est intitulé « Des cadeaux pour le Maharaja ». Il était une fois, deux fois, maintes fois, un Maharaja qui avait la réputation d'être un illustre sage. Un jour, il atteignit l'âge de 100 ans. L'événement fut reçu avec une immense joie, car tous aimaient énormément leurs gouvernants. On organisa une grande fête au palais pour ce soir-là, à laquelle furent invités de puissants seigneurs du royaume et d'autres pays. Le jour arriva et une montagne de cadeaux fut déposée à l'entrée du salon où le Maharaja allait recevoir ses invités. Au cours du dîner, le Maharaja pria ses serviteurs de séparer les cadeaux. D'un côté, ceux sur lesquels figurait le nom de l'expéditeur, et de l'autre, ceux dont on ne savait qui les avait envoyés. Au dessert, le roi demanda qu'on lui présentât tous les cadeaux en deux tas. L'un était constitué de centaines de volumineux et coûteux cadeaux, tandis que l'autre, plus petit, ne comptait qu'une dizaine de présents. Le Maharaja se mit à ouvrir les cadeaux du premier tas, appelant au fur et à mesure ceux qui les avaient apportés. Il les faisait monter un à un sur le trône et disait à chacun « Je te remercie de ton cadeau, je te le rends, ainsi nous sommes quittes. » Et il lui rendait son cadeau, sans s'occuper de ce que c'était. Lorsqu'il eut terminé avec le premier tas, il s'approcha du second et dit « Ces cadeaux sur lesquels ne figure aucun nom, d'expéditeur, je vais les accepter, parce qu'ils ne m'obligent à rien. À mon âge, il n'est pas bon de contracter des dettes. » Tout ce que tu ne sais pas donner, te possède. André Gide. Le Maharaja de ce conte est un vieil homme. Il a donc de l'expérience. Pour autant, sa décision de n'accepter que les cadeaux anonymes est-elle vraiment sage? Pour l'anthropologue Marcel Mauss, le don suppose une réciprocité. C'est pourquoi il préfère parler d'échange don. Il s'agit, selon lui, de donner, recevoir et rendre. Il y aurait donc, selon Marcel Mauss, dans chaque don, des intérêts, des forces, de la domination, de la séduction, etc. C'est d'ailleurs intéressant de noter que le mot « gift », qui veut dire « don » en anglais, signifie « poison » en allemand. Notre Maharaja semble très aligné avec cette idée d'échange don. C'est pourquoi, en toute logique, accepter le cadeau d'une personne identifiée serait pour lui contracter une dette qu'il n'est pas sûr d'avoir le temps d'honorer vu son âge. La notion de don est assez naturelle à l'homme, car il a dû partager pour pouvoir survivre. De la connaissance aux outils, en passant par la nourriture ou un refuge, la solidarité d'une personne a toujours été la façon dont les autres ont pu continuer à rester en vie. Et cela n'a pas été seulement le cas à l'époque de l'homme des cavernes, heureusement. Cela tient encore aujourd'hui. Si l'échange d'ons est nécessaire à la survie humaine, et si elle implique une dette, alors que penser des administrés de ce Maharaja qui ne mettent pas leur nom sur les paquets? Ne sont-ils pas en train de refuser ce triptyque « donner, recevoir, rendre » Peut-être que pour cela, le don comporte une idée de gratuité et de désintéressement. Peut-être qu'ils rejoignent la pensée de Jules Simon quand celui-ci dit « donner pour recevoir, ce n'est pas donner, c'est faire un commerce ». Le don créateur de dette ou le don geste désintéressé sont deux façons d'appréhender le don, autrement dit deux croyances différentes. Mais aucune n'est plus vraie que l'autre. Seulement, ne pas savoir passer d'une croyance à l'autre, avoir une vision du monde trop rigide, avoir une certitude arrêtée entre le don qui est créateur de dette et le don qui est un geste désintéressé, pourrait bien nous jouer des tours. Le don contre don, celui par lequel on engagerait l'autre, crée chez le donateur une attente d'un retour quelconque. Et chez le donataire, c'est-à-dire celui qui reçoit, une obligation. Mais imaginons que le donataire, ou si vous préférez le destinataire du don, justement est dans la croyance du don gratuit. Le donateur ne verra donc pas de retour à son geste et pourrait ressentir de la frustration. Le pire serait la personne qui aurait tellement assimilé cette notion de don contre don qu'elle l'utiliserait à la place d'une demande et deviendrait ainsi ce que Geneviève Créba appelle un dépendant affectif. Se mettre de part ses dons dans l'attente même inconsciente d'un retour peut nous amener à des plaintes du type « avec tout ce que j'ai fait pour eux, ils sont vraiment ingrats » ou « quand c'était elle qui avait besoin de moi, j'étais là », etc. Le Maharaja de notre histoire, enfermé dans sa croyance du don contre don, en vient à refuser de sans doute très beaux cadeaux. Et moi, à la lecture de ce conte, je me suis imaginé la frustration de ces sujets qui voient leurs cadeaux refusés après avoir passé du temps à les choisir. Et ça m'a fait penser à l'adage populaire de « un cadeau, ça ne se refuse pas ». Venons-en à l'écueil de la deuxième croyance, celle du don gratuit. Si savoir donner sans rien attendre en retour permet sans doute de faire l'économie de certaines frustrations comme nous venons de le voir, et s'il permet également de formuler des demandes claires plutôt qu'utiliser le don pour avoir un hypothétique retour. En revanche, cela ne favorise pas le lien social. Imaginez des amis que vous invitez régulièrement chez vous mais qui jamais ne vous rendent l'appareil. N'auriez-vous pas une certaine lassitude au bout d'un moment ? En effet, ces deux croyances portent des risques quand on est trop fixé sur une des deux. Ah, l'idée est de savoir jongler entre les deux. Les cadeaux donnent envie, je trouve, d'entretenir le lien. J'ai eu envie aujourd'hui de commencer l'épisode en lisant le commentaire de Claude. C'est une façon de la remercier, de faire un retour à son cadeau et d'entretenir le lien. Donner est un acte d'amour, d'amitié ou d'appréciation pour l'autre. Aussi aujourd'hui, je voulais vous parler des 5 langages de l'amour mis à jour par Gary Chapman dans son best-seller sorti en 1997 en France. Pour cet auteur, pasteur, baptiste et conférencier américain, il y a 5 façons de donner de l'amour à quelqu'un. Et ce qui est très intéressant, c'est que si ces 5 langages sont universels, nous n'y sommes pas sensibles de la même façon, d'où l'intérêt de bien se connaître et de bien connaître l'autre. J'ai personnellement découvert cet outil grâce à un ami lors de notre préparation au mariage. Nous avions, mon mari et moi, listé dans l'ordre les 5 langages de celui qui nous parlait le plus à celui qui nous touchait le moins. Le fait de les connaître nous permet de nourrir le réservoir affectif de l'autre, je dirais efficacement. Le mot n'est pas très joli, mais je pense que c'est le bon mot. C'est celui qui est juste parce que témoigner de son amour par le langage auquel l'autre est le moins sensible risque de nous demander beaucoup d'efforts pour remplir relativement peu son réservoir affectif.
Si l'on fait l'analogie avec la voiture, imaginez, vous avez une voiture essence et vous lui mettez du gasoil. Vous n'allez pas aller très loin. Alors, quels sont ces cinq langages de l'amour? Tout d'abord, on va commencer par les paroles valorisantes. Nourrir l'autre de paroles qui lui font du bien. Ce peut être un compliment pour montrer à l'autre combien nous l'estimons, ou ce peut être une parole encourageante. Encourager, c'est insuffler du courage. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous sommes hésitants ou nous manquons de courage, ce qui peut nous empêcher de prendre les initiatives positives qui nous tentent. Cela me fait penser à la phrase derrière chaque grand homme se cache une femme, et j'aurais envie de rajouter et inversement. Je suis convaincue que ces paroles valorisantes sont ultra importantes dans nos relations. Le deuxième langage évoqué par Gary Chapman est les moments de qualité. Alors, qu'est-ce qu'un moment de qualité? C'est un moment où l'on accorde à l'autre une attention totale et sans partage. Ce peut être se promener à deux, prendre un verre, prendre un moment de tranquillité sans enfant et sans téléphone, juste pour se parler. S'offrir des moments de qualité ne signifie pas pour autant se regarder constamment dans les yeux. C'est plutôt entreprendre une activité à deux en veillant à accorder de l'attention à son partenaire. En soi, l'activité est secondaire. Elle n'est là que pour créer le sentiment d'unité. Si votre manière de prendre un moment de qualité est de faire une partie de tennis, ce ne sera pas tant le jeu qui vous intéressera que l'opportunité de renforcer votre complicité. Ensuite, on en vient aux cadeaux. Ce qui compte dans les cadeaux, ce n'est pas la valeur marchande du cadeau, mais le fait que la personne ait pris le temps de choisir un cadeau en pensant à vous. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Un service rendu exige de l'organisation, du temps, de l'effort et de l'énergie. S'ils sont accomplis dans un esprit positif, ils sont d'authentiques expressions d'amour. Combien de personnes disent que le temps est la denrée la plus précieuse qu'ils ont? Aller chercher un colis à la poste pour son conjoint, pour un ami, peut représenter un gain de temps appréciable. Et enfin, le dernier langage est le toucher physique. De nombreuses études dans le développement de l'enfant ont mis en lumière que des bébés cajolés et embrassés développent ensuite une personnalité émotionnelle plus saine que ceux qui restent de longues périodes sans contact physique. Dans un couple, le toucher physique est un puissant moyen de communiquer son amour, que ce soit par des baisers, des caresses, des enlacements, des relations sexuelles. Le toucher physique est également important dans la sphère sociale. La poignée de main exprime l'ouverture et le lien social avec autrui. Lorsqu'un homme refuse de serrer la main d'un autre, il lui signifie ainsi qu'il y a obstacle dans la relation. Alors bien sûr, en ce moment, avec la crise sanitaire, ça a changé un peu la donne, mais d'ailleurs c'est amusant de voir que dans cette crise Covid que nous connaissons, les embrassades et les serrements de main sont bien sûr interdits, mais aussitôt nous avons vu d'autres rituels physiques naître, des checks de coude ou de pied. Notre premier réflexe quand un enfant pleure, c'est d'aller le consoler en le prenant dans ses bras, et c'est un excellent moyen de lui témoigner de notre amour. Ces cinq langages valent bien sûr pour une relation conjugale, mais aussi amicale et même tout type de relation. Connaître notre ordre de sensibilité à ces cinq langages est très utile. Suis-je plus sensible aux paroles valorisantes, aux moments de qualité, aux services rendus, aux cadeaux, au toucher physique? Le savoir va me permettre de faire des demandes claires à mes amis, à mon conjoint, du type dire à mon conjoint, cela me touche beaucoup quand tu me valorises et tu me rends un service, mais tu n'as pas forcément besoin de me ramener un cadeau à chaque déplacement professionnel, même si c'est gentil de le faire, par exemple, mais aussi à ses amis. Et connaître l'ordre de sensibilité des personnes à qui on a affaire est une évidence, ça nous permettra de cibler nos actions. Maintenant, si nous portons notre regard sur l'entreprise, comment utiliser cet outil dans la sphère des organisations? En fait, c'est assez simple parce que dans le contexte professionnel, les langages sont à peu près les mêmes que dans le contexte personnel. Gary Chapman s'est rapproché du docteur Paul White, quelques années après la sortie de son best-seller pour écrire un livre intitulé « Les cinq langages de l'appréciation au travail ». Globalement, ce sont les mêmes. Concernant, on va commencer par les paroles valorisantes. Il n'y a pas une seule formation au management qui n'aborde pas l'art du feedback. On sait à quel point ce qu'on appelle les strokes positifs sont importants pour la motivation et les équipes. Nous aurons l'occasion d'en parler plus en profondeur au prochain épisode. Les services rendus en entreprise, ça peut être de venir en aide à un collègue qui est en surcharge de travail. Ça peut être collecter et transmettre des infos utiles pour une mission, etc. Les temps de qualité, ce sont des moments passés, par exemple, à déjeuner ensemble. Ou à boire un verre entre collègues à la sortie du bureau, sachant que ça dépend un peu des cultures d'entreprise. Ou tout simplement prendre un temps à deux en ayant une oreille attentive lors d'un one-to-one ou autour d'un café. Les cadeaux, quand on pense aux cadeaux en entreprise, on pense notamment aux cadeaux des départs à la retraite, aux cadeaux d'anniversaire éventuellement, ou tout simplement rapporter quelques friandises locales de ses vacances. Et le contact physique, cinquième langage. Au travail, il doit se faire de manière tout à fait consciente, dans le respect total du niveau de confort, des limites et des différences culturelles de l'autre, de même que des normes en milieu de travail. Le contact physique peut être un geste propice et porteur de sens. Il survient généralement de façon spontanée dans le contexte d'une célébration, et se manifeste par exemple par une tape dans la main, un point ou une poignée de main de félicitations. Je me suis inspirée personnellement de ces langages pour créer une séquence lors d'un séminaire de coaching d'équipe. L'idée était que chacun fasse la liste des langages d'appréciation au travail et que les autres devinent le tiercé de leurs collaborateurs afin de voir les éventuels écarts et surtout de mieux se connaître pour mieux communiquer son appréciation. L'équipe est repartie avec un tableau sur un paper qui a été affiché par la suite dans leur bureau. Voilà pour ce qui est des cinq langages dans le quotidien professionnel. Nous arrivons donc à la fin de cet épisode. Un grand merci pour m'avoir écouté et je vous retrouve avec grand plaisir dans 15 jours pour parler de la valeur d'une bague et du besoin de reconnaissance. Mais ça, c'est une autre histoire.
La vie est un conte est un podcast indépendant, une bonne façon de le soutenir et de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !